Unitaire, au cœur de l'action des défenseurs de l'environnement. Une émission de Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio.
Il y a un an et demi, Michel Forst a été élu à l'unanimité pour être le premier rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement. Dans cet épisode, nous allons revenir sur ce mandat, bien sûr, mais aussi son originalité, ses spécificités et sa complémentarité avec d'autres mécanismes internationaux de protection des défenseurs. Surtout, ça va être l'occasion pour lui de tirer les leçons de cette première année d'exercice effectif du mandat. La Convention Aarhus, Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, a été adoptée en 1998. Elle a été adoptée et ratifiée par 47 États. Face à la montée du nombre d'assassinats de défenseurs de l'environnement, à l'intensité des menaces et des représailles auxquelles ils sont confrontés, les États parties ont décidé de créer un mécanisme de réaction rapide pour répondre à l'urgence et surtout agir immédiatement en protection des défenseurs. Ce mandat a été créé en octobre 2021 et Michel Forst a seulement été élu en juin 2022 comme premier titulaire du mandat. Il a été élu à l'unanimité. Mais il n'avait véritablement pris ses fonctions qu'en octobre 2022. Michel, quand tu as pris tes fonctions, tout était à faire. Il s'agissait d'un mandat tout à fait nouveau, très original. Quelles ont été les actions que tu as voulu mettre en place immédiatement ?
Alors peut-être pour commencer, il faut rappeler que si j'ai été élu, ce n'est pas tout à fait par hasard. C'est parce que les États cherchaient quelqu'un qui avait déjà eu un mandat auparavant aux Nations Unies, c'est-à-dire qui savait comment ça fonctionne, quelles étaient les méthodes de travail, quels étaient les partenaires à associer, pour être sûr au fond que le mandat serait immédiatement effectif. Et c'est une des raisons qui explique le choix par les ONG, par la société et par les États de m'approcher pour ce mandat, en fait. Hein. Parce que c'est important de bien connaître le système des Nations Unies, de savoir comment ça fonctionne, de ne pas perdre de temps à inventer des méthodes qui existent déjà, pour pouvoir être sûr que tout de suite on peut défendre, protéger les défenseurs qui sont à risque. Hein. Et j'ai effectivement eu d'autres mandats auparavant, dont un premier mandat important qui était sur la protection des défenseurs en général, et donc ce mandat est lui limité à une catégorie de défenseurs dont on a parlé, qui sont les défenseurs de l'environnement.
Et puis auparavant, tu avais été aussi président du comité de coordination des procédures spéciales, et encore avant, tu avais été expert indépendant sur Haïti, donc tu as une connaissance profonde et longue en fait, du système des Nations Unies.
Voilà, tout à fait. Donc, et alors, ce que j'ai essayé de faire dès le début, c'est d'essayer d'élaborer une espèce de vision stratégique pour le mandat, c'est-à-dire de me projeter dans l'avenir. J'avais un mandat de 5 ans, j'ai un mandat de 5 ans. Au fond, qu'est-ce que je vais faire de ce mandat? Comment je vais réussir à le rendre effectif? Comment je vais réussir à opérationnaliser la décision qui crée le mandat? Alors, j'ai d'abord voulu essayer d'obtenir un vaste soutien politique, c'est-à-dire au-delà de l'élection, m'assurer que dans les capitales, les États avaient bien compris la portée du mandat, obtenir également un soutien financier, parce que il faut rappeler que les mandats de rapporteurs spéciaux sont soutenus par les Nations Unies, mais le budget qui est alloué aux rapporteurs spéciaux est relativement modeste au regard de l'ambition de chacun des mandats, et sans des financements extra-budgétaires de la part d'États, de fondations, il y a bien évidemment peu de choses qu'on peut faire, et sans ce soutien, le mandat n'est pas effectif. Donc, m'assurer d'un soutien politique, financier, ça me paraissait important.
Et ça t'a permis aussi de déployer une équipe dédiée à ce mandat, que voilà, ne t'aurait pas permis d'avoir seulement le Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
Tout à fait, parce que le mandat, s'il est soutenu par les Nations Unies avec un budget et une équipe de salariés permanents, l'équipe de salariés permanents n'est pas assez importante pour répondre aux ambitions que j'avais pour le mandat. Et avec le soutien politique que j'ai obtenu, le soutien financier, j'ai pu effectivement créer une équipe nouvelle, avoir d'autres personnels rattachés directement au mandat pour m'aider à développer le travail. Alors en termes de méthode de travail, j'ai voulu effectivement m'adapter non seulement aux méthodes de travail traditionnelles des rapporteurs spéciaux, mais également, parce que c'est un mandat très particulier tout portant sur les défenseurs de l'environnement, également inventer des choses un peu plus nouvelles pour être sûr de réagir de plus rapidement encore aux menaces, parce que les menaces de mort, c'est pour demain. On ne peut pas attendre d'avoir tout le levier diplomatique, la batterie d'armes diplomatiques qu'on utilise pour les rapporteurs spéciaux. Pour agir, il faut agir tout de suite. Donc, trouver des méthodes de travail innovantes qui permettent d'agir tout de suite et maintenant, dès qu'on sait que les défenseurs sont menacés. Et le troisième aspect qui me paraît important de souligner, c'est de gagner le soutien des défenseurs de l'environnement eux-mêmes. Parce que, comme je l'avais écrit dans plusieurs rapports, rien ne peut se faire en matière de protection des défenseurs sans d'abord consulter les défenseurs, savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, comment ils voient les choses, pour ensuite former le mandat, le reformer, élaborer une vision qui réponde réellement aux besoins des défenseurs. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'organiser maintenant une série de consultations avec les défenseurs sur le terrain. Je les invite à des réunions où je les écoute, me raconter des témoignages, des menaces auxquelles ils sont... dont ils sont victimes, mais également me dire au fond de quoi ils ont besoin et en quoi ce mandat pourrait être utile pour les aider à être protégés.
Et donc tu parles de consultation, tu en as fait dans beaucoup de pays ?
Alors pour l'instant j'ai commencé, parce que c'est long à mettre en place, et j'ai voulu commencer par une catégorie très particulière qui sont les populations autochtones du nord de l'Europe, qu'on appelle les Samis, en Finlande, en Norvège et en Suède. Et j'invite également les Inuits du Groenland, à venir me raconter en quoi ils sont eux-mêmes, pourtant insérés dans le cœur de l'Europe, victimes également de menaces semblables à celles que vivent leurs collègues en Amérique latine ou en Afrique. Et dès janvier 2024, je suis en Asie centrale pour une première consultation. Ensuite, c'est l'Afrique, puis ensuite l'Amérique latine.
Alors là, tu parles de plusieurs régions du monde. Pourtant, la Convention Aarhus a été ratifiée seulement par 47 États. Comment se fait-il que ton action déborde les frontières de ces États parties ?
Alors, c'est une des beautés de ce mandat qui est qu'il est assis sur une convention universelle, non pas une convention régionale. Et une convention universelle, ça veut dire que tous les États peuvent ratifier la convention. À l'heure actuelle, il y a effectivement, on l'a dit, 47 États, avec un État africain qui est la Guinée-Bissau. Mais pour autant, la portée du mandat dépasse largement les pays dans lesquels qui ont ratifié la convention d'Aarhus. Pour être plus clair, par exemple, lorsqu'une entreprise française opère à l'étranger, en Afrique, ou une entreprise espagnole opère au Pérou, en Colombie, alors les défenseurs menacés par ces entreprises peuvent faire appel à moi. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du mandat. Le fait qu'on puisse agir au-delà du territoire même des États qui ont ratifié la Convention.
Donc il suffit qu'une entreprise ait son siège historique, son siège social dans un des pays signataires d'Aarhus pour que la Convention déploie ses effets dans les territoires où elle opère, y compris dans des pays qui ne sont pas eux signataires.
Oui, ça va même un peu plus loin, parce que prenons le cas d'entreprises canadiennes, australiennes ou des États-Unis qui viendraient et qui le font d'ailleurs travailler sur un des pays ratifiant la Convention d'Aarhus. Par exemple, une entreprise canadienne qui construirait un barrage en Arménie. Le fait que c'est en Arménie qui a ratifié la Convention d'Aarhus, l'entreprise canadienne est également redevable parce que le pays, l'Arménie, le gouvernement d'Arménie, a le devoir de faire respecter les dispositions de la Convention, quels que soient les auteurs des attaques contre les défenseurs. Donc c'est vraiment très très large, beaucoup plus large que ce qu'on pensait. Et j'ajoute avec un peu d'humour que récemment, plusieurs États m'ont dit que s'ils avaient compris au départ que ce mandat avait cette portée extraterritoriale, peut-être ils auraient été plus réticents à le créer.
Et bien sûr, il y a d'autres mécanismes internationaux qui portent sur la protection des défenseurs. Tu l'as rappelé toi-même, puisque tu as été rapporteur spécial sur les défenseurs des droits humains de 2014 à 2020, il me semble. Quelle est la particularité de ton mandat et sa valeur ajoutée par rapport aux autres mandats des Nations Unies ou d'autres moyens de protection qui existent, par exemple, dans la région du Conseil de l'Europe ?
Alors peut-être il faut rappeler qu'un mandat de rapporteur spécial ou d'expert indépendant, il est créé généralement par une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui est une résolution qui par définition n'est pas contraignante, puisqu'en fait même s'il est adopté par consensus, ça n'est qu'une résolution qui n'oblige en aucun cas les États. Là, ce mandat il a été créé d'une autre manière, il a été créé au sein d'une convention, une convention qui est d'obligation obligatoire pour les États. La Convention d'Aarhus contient des dispositions qui sont obligatoires pour les États, qui doivent les respecter. Et donc, en créant ce mandat dans un instrument juridiquement contraignant, ça donne au mandat une force juridiquement contraignante qui fait que les décisions que je prends, les recommandations que je fais aux États, elles ont la même forme, la même force d'obligation qu'une résolution contraignante de la part des Nations Unies. Et donc là, il s'agit d'inventer cette nouvelle forme de contrainte aux États. Et donc, c'est aussi une des beautés de ce mandat qui est de créer quelque chose de nouveau, donc des contraintes pour les États de mettre en œuvre obligatoirement des recommandations faites par un rapporteur spécial. Alors ça intrigue intrigue beaucoup les États, et donc je travaille avec eux sur ce mécanisme nouveau qu'on va découvrir bientôt.
Ça ne doit pas leur faire non plus très plaisir quand on voit donc cette étendue géographique et surtout cette force contraignante. Ils n'avaient pas réalisé que c'était...
Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les États n'ont pas réalisées. En fait, ils sont partis de l'intention généreuse de créer un mandat de réaction rapide parce qu'ils voyaient à quel point c'était nécessaire. Là, je serais bien écrite, la décision est bien écrite, mais en fait, en creusant et en explorant les limites du mandat, on s'aperçoit qu'il y a effectivement non pas des failles, mais des espaces dans lesquels on peut s'engouffrer pour donner plus de portée à ce mandat. J'aime à rappeler toujours que il y a un pays qui avait ratifié la Convention d'Aarhus, qui est le Bélarus, la Biélorussie, et qui était menacé d'être exclu, précisément parce qu'il menaçait les défenseurs de l'environnement. Ayant été menacé d'exclusion, ils ont décidé de quitter la Convention. Peut-on imaginer que la Suisse, la France, l'Allemagne, la Belgique, menacés parce que ne respectant pas les dispositions de la Convention, soient menacés d'expulsion ? C'est peu probable, il y aura des pressions diplomatiques, et donc c'est un des moyens de pression, un des leviers que j'ai pour rendre effectif ce mandat.
Et donc, c'est comme dans tous les mandats que tu as occupés, tu essayes d'explorer toutes les limites jusqu'aux dernières extrémités, tout en restant dans le cadre légal qui est le tien. Mais alors, comment ça s'articule avec, par exemple, le Compliance Committee, qui est attaché, le comité de conformité qui est attaché à la Convention Aarhus ? Comment ça s'articule avec les autres mandats des Nations Unies ?
Alors, avec le comité de conformité, on a une relation très régulière. Je suis invité très régulièrement au comité à rendre compte de la manière dont j'exerce le mandat. Rappelons que le Compliance Committee, le comité de conformité, il a une mission, c'est d'être le gardien de la conformité des États aux dispositions de la Convention. Donc, il reçoit des plaintes par rapport au fait que des États ne respecteraient pas les dispositions, les trois piliers de la Convention, en fait, hein. Moi, mon mandat, il est autre chose. Il est de travailler sur des menaces auxquelles sont confrontés des défenseurs de l'environnement. Donc, il y a une complémentarité avec le Compliance Committee. On s'informe et parfois, je renvoie au Compliance Committee des cas qui, en fait, manifestement, sont plutôt des cas de violations substantielles. Et eux me renvoient des cas dès lors qu'ils reçoivent des communications sur des défenseurs menacés. Alors, avec les autres mandats, les relations sont extrêmement fluides. Comme je les connais, j'ai été l'un d'entre eux. Donc j'ai des relations régulières avec les rapporteurs spéciaux, essentiellement sur la défense des défenseurs, mais également sur la liberté d'expression, la liberté d'association, la lutte contre la torture, le terrorisme, parce que c'est des mandats qui sont très proches du mien, et donc on travaille ensemble parfois sur des décisions communes, des orientations communes ou des stratégies communes.
Vous signez des lettres conjointement ?
Alors on essaye effectivement d'abord de voir s'il vaut mieux le faire ensemble ou plutôt séparément, parfois c'est plus utile de le faire seul, et avec les autres rapporteurs spéciaux sur les défenseurs, là on met en place une réunion intermécanisme, une réunion annuelle durant laquelle on parle de nos stratégies, et la prochaine réunion qui aura lieu en 2024, elle va être précisément dédiée au fait qu'en Afrique, dans les Amériques, dans l'Union européenne, également avec la Convention d'Aarhus et aux Nations Unies, on travaille dans la même direction sur la protection des défenseurs de l'environnement avec une vision commune et une stratégie commune d'action.
Alors bien sûr, le sujet central quand on crée un mécanisme de réaction rapide, c'est quelle est son efficacité. Et donc, quelles sont les premières leçons que tu peux tirer de cette année d'exercice de ton mandat ?
Alors d'abord, la première leçon, c'est une grande découverte par les défenseurs de l'environnement du fait qu'il existe aux Nations Unies un mécanisme spécifique qui peut les protéger. Et à chaque fois que je suis dans un pays et que je parle avec des militants environnementaux, des militants du climat, ils sont d'abord intéressés et ensuite ils regardent comment saisir le mandat, et on reçoit à l'heure actuelle beaucoup de plaintes de la part de défenseurs du monde entier qui sont victimes de menaces soit des États, soit de la part des forces de sécurité, soit de la part des entreprises. Et donc on voit à quel point ce mandat était nécessaire, parce qu'en fait, il répond à un besoin qui est exprimé par les défenseurs. La deuxième leçon, c'est de voir à quel point les États répondent rapidement à mes communications. Donc, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de retard dans les réponses, des réponses qui sont détaillées, substantielles. Il y a eu quelques réponses qui sont disponibles sur le site, notamment de la Suisse, qui est étonnée de recevoir une communication concernant la Suisse sur une entreprise à deux reprises qui aurait violé les droits des défenseurs au Guatemala et en Indonésie. Et donc, il y a un dialogue qui s'engage avec la Suisse. Donc, c'est intéressant de voir que mon approche du monde mandat, c'est pas uniquement de faire des lettres et ensuite d'attendre la réponse des États, mais d'arriver à aboutir à des résultats pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de répétition de violations. Et quand un État ou une compagnie a compris comment ça marche, alors on peut espérer qu'elle prendra elle-même des mesures pour anticiper des menaces qu'elle peut, qu'elle pouvait jusqu'à présent avoir contre les défenseurs.
Et justement, donc tu parlais de la réponse des États et des entreprises, comment elles prennent tes communications ?
Alors d'abord avec parfois avec surprise, donc elles sont étonnées de voir qu'on puisse leur écrire, qu'un mandat puisse leur écrire, qu'un rapporteur leur écrive. Certains contestent le fait que la portée extraterritoriale du mandat soit effective. Donc là, on a les preuves tout à fait légales qu'il a. Et donc une fois qu'on leur a apporté cet élément d'information, il y a un dialogue qui s'engage avec elles ou avec eux. Je veux dire que la plupart d'entre elles, pas toutes, mais la plupart d'entre elles comprennent la nécessité effectivement de regarder plus, de plus près ce mandat et de voir comment elles vont répondre pour éviter de revoir l'avenir voilà, menacées de plaintes publiques qui pourraient atteindre leur réputation. Et donc on sait l'effet réputationnel que les plaintes des rapporteurs spéciaux peuvent avoir sur le devenir des entreprises.
Et pour l'instant, tu as décidé de ne rien rendre public ?
Alors tout est public progressivement sur le site des Nations Unies, sur le site du mandat. Il y a d'une part les lettres que j'ai écrites aux États et il y a les réponses que les États ont envoyées au mandat. Il y a les lettres que j'ai écrites aux entreprises et les réponses que les entreprises me donnent. Il y a des réponses qui pour l'instant sont encore confidentielles parce que quand je sens qu'il y a une marge de manœuvre supplémentaire, que je peux avoir un levier d'action supplémentaire pour être encore plus efficace, alors je préfère attendre avant de rendre publique la réponse de l'État ou de l'entreprise pour m'assurer que la réponse sera à la hauteur des attentes des bénéficiaires, c'est-à-dire des défenseurs qui sont menacés.
Et côté défenseurs, alors tu as vu une montée en puissance du nombre de plaintes qui te sont adressées dans lesquelles ils relatent les menaces dont ils sont l'objet, les dénigrements, les représailles, etc. Tu as vu à quel point ils se sont saisis du mandat ou pas ?
Oui, alors ils se saisissent de deux manières. D'abord, ils regardent le site du mandat qui est beaucoup visité. On reçoit de plus en plus de plaintes qu'on traite avec l'équipe. Et c'est intéressant que je suis de plus en plus invité à des conférences ou à des panels ou à des discussions qu'eux organisent dans les pays pour mieux faire connaître le mandat. Et j'en profite à chaque fois que je suis dans le pays pour organiser des consultations avec les défenseurs, mais également pour rencontrer l'État et lui expliquer en quoi, peut-être, à terme, il serait utile qu'il puisse réformer des pratiques en matière de droit à l'information, consultation du public ou accès à la justice environnementale.
Alors peut-être pour être un peu plus concret, on avait fait un épisode au tout début de ce podcast sur la désobéissance civile, qui est un concept assez mal compris. Je sais que tu as eu l'occasion aussi d'en parler avec le rapporteur spécial sur la liberté d'association et de réunion, puisque ça concerne aussi son mandat. Quelles sont les grandes lignes qui ressortent de vos discussions sur le cadrage de la désobéissance civile ?
Alors, ce que nous avons décidé de faire ensemble et aussi séparément, c'est de d'abord rappeler les obligations du droit international qui, en fait, très clairement, non pas réglementent, mais donnent des indications sur la manière dont les États doivent aborder la désobéissance civile comme étant une des formes d'action reconnues par le droit international et les droits de l'homme. Et ensuite, on va travailler chacun de notre côté sur des outils permettant de guider les États, les magistrats, mais également les États de manière plus générale, sur une meilleure réponse à apporter à la question de la désobéissance civile sur la base d'exemples concrets qu'on peut leur apporter. Et je voyage à l'heure actuelle dans plusieurs pays européens. Je serai au début janvier en Grande-Bretagne pour en parler avec le gouvernement britannique, qui est un des pays dans lequel on a de plus en plus de préoccupations. Récemment encore, 6 mois de prison ferme pour avoir simplement essayé de bloquer l'accès à un aéroport.
Oui. Alors, dans les années à venir, tu as déjà esquissé quelques grandes lignes, mais que prévois-tu de faire pour mieux protéger les défenseurs ?
Alors d'abord, essayer d'étendre de plus en plus le mandat, la portée du mandat, montrer à quel point les premières communications qu'on a pu faire ont été effectives. Donc montrer l'efficacité du mandat, c'est montrer à quel point on peut continuer à me saisir pour avoir plus de résultats. Et donc une des idées, c'est d'être plus visible, mieux compris, et faire en sorte que par les actions qu'on mène, le mandat se permette, enfin soit mieux compris par les bénéficiaires, c'est-à-dire les défenseurs. Et puis de développer également des outils nouveaux, des méthodes de travail nouvelles, pour faire en sorte qu'on puisse mieux communiquer communiquer de manière plus actuelle, en utilisant mieux, par exemple, les outils sociaux, qui sont des outils que les jeunes, parfois les enfants, utilisent mieux que les adultes. Et c'est un outil qui me paraît indispensable, parce que beaucoup, de plus en plus, de, enfin, on voit beaucoup de jeunes enfants, parfois 12-13 ans, qui sont aussi arrêtés par la police, parfois mis en prison, on se demande pourquoi, pour avoir simplement retweeter un lien vers un site ou retweeter un appel à manifester contre un projet qui menace leur environnement, leur village.
Est-ce que tu envisages de faire des rapports thématiques sur des catégories de défenseurs ou des types de menaces ou des catégories d'acteurs qui menacent les défenseurs ?
Alors, une des troisièmes beautés du mandat, si je puis dire, c'est que j'ai pas de contraintes, hein, la liberté de faire ce que je veux. Donc j'ai pas l'obligation de faire des rapports, mais je peux le faire. Donc pour l'instant, en fait, on se concentre sur l'action immédiate. Les consultations seront le deuxième élément. On aura sans doute un rapport sur les consultations, consultations régionales, et un rapport plus général sur les consultations. Des rapports thématiques, je ne sais pas encore. C'est une question qui est encore à discuter. Et je pense que les défenseurs de l'environnement que je vais rencontrer dans mes consultations, ils auraient quelques indications sur ce qu'ils attendent du mandat. Est-ce qu'ils ont besoin de rapports thématiques ? Ça prend du temps. C'est pas toujours très efficace. Je préfère donner une priorité à l'action immédiate pour être mieux capable de répondre à une des priorités du mandat, qui est d'être ce mécanisme de réaction rapide que les États ont voulu créer rapidement.
Il y a quelques temps, tu avais envoyé un message sur un réseau social dans lequel tu dénonçais la pratique des policiers allemands qui tordent les poignets des militants du climat qui sont assis au sol et qui ne veulent pas en bouger pour bloquer un pont, une rue. Voilà, tu avais dénoncé cette pratique en expliquant qu'elle rentrait dans le cadre de la définition de la torture. Ce message avait été énormément relayé. Est-ce que tu as pu avoir des échanges avec les autorités allemandes ?
Non, pas encore. En fait, j'ai pas envoyé de communication directement sur l'Allemagne à ce propos-là. Parce que, comme je l'ai expliqué, en fait, malheureusement, les polices se copient l'une et l'autre. Cette méthode, en fait, de pain grief, cette prise de pingouin, en fait, qui est la main en arrière, qui est très douloureuse, elle a été malheureusement reproduite dans d'autres États. Et donc, j'ai l'intention de faire une communication plus large, adressée à plusieurs États, pour montrer, d'une part, que c'est une torture, ça répond à la définition de la torture, et d'autre part que c'est une mauvaise chose que de voir que les polices se copient et copient les mauvaises pratiques les unes sur les autres.
Très bien. Ce que je retiens de cet échange avec Michel Faure, c'est que l'installation du mandat a été un moment extrêmement important. D'abord parce que la Convention Aarhus était particulièrement inconnue des ONG, des défenseurs et même des États, et que ce mécanisme d'action rapide a montré tout de suite son importance en termes d'effet, puisque il a cette dimension d'extraterritorialité qui est extrêmement précieuse, et puis il a ce caractère contraignant qui est totalement inédit. Et donc les ONG et les défenseurs eux-mêmes se sont tournés vers ce mandat, vers le titulaire du mandat. Et donc, de ce point de vue, c'est un pari tout à fait gagné. Maintenant, il reste à vaincre la réticence des États qui sont très réfractaires à l'application de la Convention Aarhus. Il reste aussi à convaincre les entreprises que c'est leur intérêt de respecter la Convention Aarhus et que les États ont l'obligation aussi de faire respecter cette convention auprès des entreprises et du secteur privé en général. Beaucoup de défis en perspective, mais on voit un mandat qui s'installe et qui, après un an et demi d'existence, opère avec des méthodes de travail tout à fait innovantes et avec des perspectives plutôt réjouissantes. Dans le prochain épisode, nous aurons un autre entretien avec Michel Faure autour d'un exemple, celui des écureuils qui s'opposent au chantier de l'A69. À très bientôt.
À très bientôt.
Cette émission a été préparée et présentée par Michel Forst et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio. Vous pouvez écouter librement toutes nos émissions sur le site d'Amicus Radio et vous abonner à ce podcast sur les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun épisode.